L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et la RTBF. Et nous allons d'abord revenir aujourd'hui sur cette condamnation en Algérie pour l'écrivain Boualem Sansal. Une condamnation à 5 années de prison ferme, Nicolas Sûr.
Oui, l'affaire est au cœur de la grave crise diplomatique entre Paris et Alger. L'auteur, qui a la double nationalité, a été condamné notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire.
L'antisémitisme une nouvelle fois largement condamné en France, une semaine après l'agression d'un rabbin à Orléans en rue par un adolescent. La communauté juive d'Orléans a reçu des soutiens venus de tous les bords politiques. En Belgique, le centre de crise invite la population à préparer un kit d'urgence utile en cas d'évacuation ou de catastrophe. La précaution n'est pas neuve. Jacques Kremers, elle refait surface en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Oui, et d'ailleurs, c'est la Commission européenne qui mercredi a encouragé le public à constituer ce type de paquet de survie, de quoi tenir au moins 72 heures en cas d'urgence, en ce compris une agression armée.
Ce constat aussi en Suisse, la criminalité a augmenté l'an dernier, particulièrement dans le domaine des agressions sexuelles et des violences domestiques, Pierre Anchoffat.
Oui, même si, selon les enquêteurs, une part non négligeable de ces hausses résulte d'une parole qui s'est libérée, les victimes osent plus qu'hier déposer plainte et donc révéler l'ampleur d'une criminalité longtemps sous-estimée.
Enfin, après plusieurs mois de soubresauts politiques, le Canada est officiellement en campagne électorale, Nadi Mobarak.
Oui, 36 jours de campagne en tout, en vue du scrutin le 28 avril prochain.
Voilà pour le sommaire de cette semaine. Il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté il y a 6 mois à l'aéroport d'Alger, a donc été condamné jeudi à 5 années de prison ferme, Nicolas.
Oui, c'est la moitié de la peine requise par le parquet. Le procureur avait demandé 10 ans de prison et 1 million de dinars d'amende. Lors de son procès express, Boualem Sansal avait nié toute intention de porter atteinte à son pays. Il était accusé d'avoir repris à son compte, lors d'une émission télé, la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française.
Alors l'affaire a provoqué un tollé de réactions dans la classe politique française et exacerbé aussi les tensions entre Paris et Alger. Mais Nicolas, un geste d'apaisement n'est pas exclu.
En effet, par médias interposés, les présidents Macron et Tebboune ont ouvert la voie à une reprise des discussions la semaine dernière. Selon nos informations, Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français, s'est rendue mardi à Alger. Un déplacement discret destiné, selon certains médias, à préparer une visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Mais selon un bon connaisseur du dossier, impossible pour le chef de la diplomatie française de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Le scénario d'une grâce présidentielle serait donc sur la table. Une grâce qui pourrait intervenir, selon le spécialiste Hasni Abidi, avant le 5 juillet et la fête nationale, en raison de l'état de santé de l'écrivain et de son âge avancé. Boualem Sansal a 80 ans et il souffre d'un cancer.
On parlait d'Emmanuel Macron il y a un instant. Le président français a dénoncé une nouvelle fois cette semaine le poison de l'antisémitisme. Il promet de ne pas céder au silence et à l'inaction après la violente agression du rabbin d'Orléans. C'était samedi dernier, en pleine rue et devant son fils. L'auteur de l'agression, un adolescent, a été interpellé. Il sera jugé en avril devant le tribunal pour enfants. Et juste après les faits, la communauté juive d'Orléans a reçu des soutiens de tous bords politiques. Patricia Pourez d'ici Orléans.
Dans la grande salle de la synagogue d'Orléans, André Druon n'arrête pas de répondre au téléphone.
Ah, je suis très pris. Ça m'arrête.
Le président de la communauté juive de la ville a été l'un des premiers à qui le rabbin a raconté son agression.
Il a été agressé par un jeune qui est venu, qui manifestement était déjà semblé agressif d'un point de vue physique. Il a été filmé en selfie avec l'agresseur et puis il a dit « Vous êtes juif, vous êtes juif, vous les juifs, vous êtes des fils de... hein ?» Voilà, donc à plusieurs reprises, il lui a craché dessus et puis après il en est venu à lui donner un coup de poing.
Il y a ensuite d'autres coups à la tête. tête, sur le torse et même une morsure dans le dos. Des témoins finissent par s'interposer et l'agresseur s'en va. Il sera interpellé quelques heures plus tard par la police. Chez les fidèles juifs, comme Samuel Bitoun, c'est la consternation.
On n'a pas eu d'agression depuis des années. On ne connaît pas ce type d'acte ici à Orléans. Et hier, on a appris la nouvelle. On était tous vraiment choqués.
Pour ce père de famille, pas question de céder à la panique.
Je dirais pas peur, mais c'est vrai que c'est une retenue. On va être discret, on va pas non plus s'afficher ouvertement.
Dès samedi soir, la communauté juive d'Orléans a reçu des témoignages de soutien de la France entière et de tous les bords politiques.
Reportage de Patricia Pourez pour Ici Orléans.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Connaissez-vous les 10 objets indispensables à un kit de survie? En tout cas, les 10 objets recommandés par les autorités en cas de crise. Ce conseil de prudence n'est pas neuf, mais il a refait surface cette semaine à l'initiative de la Commission européenne à Bruxelles, Jacques.
Oui, la Commission a en effet présenté mercredi un plan destiné à préparer la population à des risques divers tels que les catastrophes naturelles, les cyberattaques ou encore une agression armée. Ces objets doivent permettre à leurs propriétaires de vivre ou survivre 72 heures en cas de nécessité, ce que certains n'ont pas manqué d'anticiper.
Nous en avons fait l'acquisition il y a très peu de temps.
On va avoir le kit de premier secours, un briquet, une batterie externe, une lampe de poche, une lampe frontale et des piles en cas de nécessité.
Ajoutez-y vos médicaments, de l'eau, une radio, vos documents d'identité, un peu de nourriture et un couteau suisse multifonction et vous voilà prêt à évacuer rapidement ou à vous passer d'électricité pendant quelques heures. Réitérés dans un contexte de tension internationale, ces conseils peuvent effrayer une partie de la population, en faire sourire une autre, mais le Centre national de crise se veut, lui, rassurant. Ce n'est pas neuf, cela fait une dizaine d'années que ces recommandations sont formulées. C'est ce que dit Thomas Gaze, son porte-parole.
Ce kit d'urgence n'est pas nouveau. Ça fait quelques années que les autorités conseillent à la population d'adopter ce bon réflexe pour faire face à toute une série de situations d'urgence, notamment une coupure de courant prolongée, une inondation, une tempête, le dégagement d'une fumée toxique d'une usine en feu.
Cette information vient en tous les cas rappeler à chacun que le risque zéro n'existe pas et qu'en adoptant les bons comportements, chacun peut soulager le travail des services de secours.
Ce constat en Suisse, à présent, les délits pénaux ont augmenté de 8% l'an dernier. Et Pierre-Anne, la hausse des violences liées au genre est particulièrement marquée.
Les dénonciations pour viol ont en effet progressé de près de 30% en 2024, ce qui ne veut pas forcément dire que les viols ont augmenté dans la même proportion. Mais davantage de victimes osent affronter l'épreuve d'une dénonciation pénale et de la procédure qui s'ensuit. Au-delà du phénomène MeToo, il y a eu tout un débat en Suisse sur la définition du viol. Le Parlement a fini par l'étendre à toute pénétration non consentie. Si la victime a dit non, l'agression sera qualifiée de viol. Et pour la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, ces discussions publiques aident les victimes à s'exprimer.
Une certaine libération de la parole. On a beaucoup parlé des agressions sexuelles quand il y a eu le phénomène MeToo. Ce n'est pas facile de venir à la police pour déposer une plainte. Et de notre côté, on a quand même fait beaucoup d'efforts pour améliorer la prise en charge, d'un point de vue de la police, des victimes de différentes infractions à caractère sexuel.
Dans les différents cantons, en effet, les polices sont aussi formées des équipes spécialisées pour prendre les dépositions des victimes de violences sexuelles.
Et autres violences liées au genre, Pierre-Anne, les violences domestiques.
Oui, plus de la moitié des homicides ont été perpétrés dans la sphère domestique, un féminicide toutes les deux semaines. Et la situation empire en ce début d'année puisqu'on en a déjà enregistré 11 en 12 semaines. Les structures d'accueil pour les victimes de violences conjugales ne parviennent pas à répondre aux besoins, ce qui choque la coprésidente des femmes socialistes, Tamara Funiciello.
Il faut des centres d'accueil pour des femmes battues par exemple, il faut de l'argent pour du travail de prévention. Et moi je vois pas ça, c'est la politique et la société en fait qui échoue complètement. C'est quand même bizarre de parler de sécurité tout le temps en parlant du militaire, mais pas de parler de la sécurité des femmes qui meurent.
Une pétition a d'ailleurs été remise cette semaine au gouvernement suisse pour qu'il débloque des moyens supplémentaires afin de mieux prévenir ces violences domestiques.
On va se quitter cette semaine au Canada. Le Canada désormais, Nadi, en pleine campagne électorale.
Oui, depuis le 23 mars dernier, le Premier ministre Mark Carney a alors demandé à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections fédérales anticipées en vue d'un scrutin le 28 avril. Peu de temps après le déclenchement des élections, tour à tour, les différents chefs de parti ont pris la parole pour faire part de leurs priorités et réitérer leurs promesses.
Et sans surprise, le nom du président américain était sur toutes les lèvres.
Absolument. D'ailleurs, Mark Carney a dit vouloir obtenir des Canadiens un mandat fort et positif pour faire face à la guerre commerciale lancée par l'administration de Donald Trump. Depuis quelques semaines, le président américain impose des droits de douane de 25% sur plusieurs produits canadiens. Le chef de la Maison-Blanche a aussi souvent répété qu'il veut faire du Canada le 51e État américain. Voici Mark Carney.
Nous ne pouvons pas contrôler le président américain. Mais nous pouvons contrôler notre destin. Nous sommes maîtres chez nous.
Le chef libéral appelle aussi la population à l'unité.
Et on a dit qu'on dit les autres chefs de parti.
Eh bien, le Parti conservateur affirme que les Canadiens ne peuvent pas se permettre une autre décennie perdue aux libéraux. Selon son chef Pierre Poilievre, les libéraux ont affaibli l'économie, l'armée et les frontières, laissant le pays vulnérable devant le président américain. De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, promet d'opposer la confiance et la raison à la peur que suscite Donald Trump.
Les Québécois ont la couenne dure. Au point où l'argument de la peur ne sera pas très efficace avec les Québécois.
Le nouveau Parti démocratique s'en est pris aux libéraux et aux conservateurs en les accusant de favoriser les ultra-riches sur le compte des travailleurs, alors que le Canada risque une crise économique. Enfin, le Parti vert veut une meilleure redistribution de la richesse.
Nadi Mobarak et Radio-Canada pour refermer l'accent des autres cette semaine. Il me reste à vous fixer rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, en compagnie bien sûr des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.